Donc bonjour Lionel, bonjour. On se retrouve dans votre cabinet à Saint-Martin-d'Hères et on est là pour échanger par rapport à l'émission qui va être enregistrée mercredi sur l'éducation sexuelle et affective et sur la prévention des violences sexuelles dans les familles et auprès des enfants. Je vais d'abord vous laisser vous présenter et nous expliquer un petit peu votre parcours professionnel.
Bonjour. Oui, bonjour. Donc oui, je m'appelle Lionel Beauchaud, je suis psychologue, mais avant d'exercer ce métier depuis maintenant fort longtemps, j'ai eu un premier métier comme en qualité d'éducateur spécialisé. Voilà, je travaille depuis maintenant plus de 30 ans dans le domaine de la protection de l'enfance. Avec une activité qui est à la fois une activité de psychothérapeute, ici à Saint-Martin-d'Hères, avec des bébés, enfants, adolescents et adultes. J'ai également une pratique d'expert auprès des tribunaux, c'est-à-dire que je reçois ici essentiellement à mon cabinet des victimes qui viennent me voir sur demande des juges. Juge des enfants, juge d'instruction, juge aux affaires familiales, pour citer les principaux. Et puis, une partie importante de mon activité, c'est de la transmission, la formation, puisque du coup, je rencontre beaucoup d'équipes de professionnels œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfance. C'est-à-dire, ça peut être des animateurs, des soignants, l'hôpital, la petite enfance, les crèches. Et puis beaucoup, essentiellement, les professionnels qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance et dans la protection maternelle et infantile. Voilà, qui sont les premiers acteurs de la protection de l'enfance en France. Voilà, en quelques mots, ce que. Voilà. Et puis, si, peut-être, puisque c'est notre sujet, moi, je réfléchis, j'accompagne, réfléchir, accompagner donc je disais les enfants, les victimes de violences sexuelles. Et après un parcours professionnel quand même relativement long, là je suis en train de terminer un ouvrage pour lequel je suis à la recherche d'un éditeur qui fera un peu la synthèse un peu de mes réflexions sur l'état des lieux un peu en France de la protection des victimes, des enfants. Ou des anciennes victimes, enfin devenues adultes au jour d'aujourd'hui, les nouvelles pratiques professionnelles, qu'est-ce qu'on doit faire, l'accompagnement, le soin, puis la prévention. Donc effectivement, voilà des enjeux extrêmement importants.
La personne idéale pour ressources pour cette émission. On se disait en off tout à l'heure, on est dans une période où ça sort, on en parle. Les violences sexistes, les violences sexuelles, c'est quelque chose qui sature un peu le débat public. Selon vous, pourquoi et comment ça peut être utile justement qu'on en parle?
Oui, on en parle beaucoup, hein, depuis là maintenant, un an et demi, 2 ans. Il y a eu beaucoup de révélations portées dans les médias, des révélations par des personnes qui avaient pignon sur rue et qui du coup pouvaient se faire entendre là où plein d'autres personnes pouvaient également être victimes de violences sexuelles et n'étaient pas entendues ou mal entendues par les services de police, de gendarmerie. Nombre d'affaires de violences sexuelles sont classées sans suite, on le sait, on a des chiffres là-dessus. Donc du coup, ces personnes empêchées d'expression ou mal écoutées dans leur expression ont vu comme ça des porte-paroles arriver. Alors évidemment, c'est positif, c'est très bien. Je pense à tous ces aux romans de Vanessa Springora, il y a plein d'autres. Et en même temps, je suis prudent. Je suis prudent parce que si on fait retour en arrière, en 1986, au dossier de l'écran, pour la première fois, effectivement, il y a une personne qui va prendre la parole et dénoncer les questions d'inceste, c'est Eva Thomas. C'est la, voilà, cette femme qui prend la parole et qui décide de prendre la parole avec le visage non flouté, face caméra. Voilà. Donc c'est vraiment la première fois et Eva Thomas va permettre la libération de la parole. En même temps, l'histoire nous a montré, et c'est une histoire très récente, que on n'arrête pas de passer par des phases où la parole se libère, puis la parole est éteinte, puis on ne veut plus en parler. Donc comme si on passait par des moments où les choses peuvent se dire, hein, où l'horreur peut se dire, parce que l'inceste, ce sont quand même effectivement des choses aux limites de l'entendable. C'est inentendable, j'ai envie de dire. Hein, ça nous bouscule au fond de nous. Donc d'un seul coup, on entend, on en parle. Et puis, je crois qu'on met le voile là-dessus. C'est trop difficile, c'est trop douloureux. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc la parole aujourd'hui qui se libère, c'est une très bonne chose. Faudrait-il encore une fois que tout cela ne se renferme pas, ne se referme pas, parce que les médias vont trouver une nouvelle marotte. Voilà, hein. Il y a aussi aujourd'hui, et ça c'était en 86, c'était une autre époque, mais il y a aussi aujourd'hui une très grande concurrence entre les médias. Donc il y a un thème qui sort, les médias s'en emparent, tous ensemble, au même moment, hein, et puis d'un seul coup on passe à autre chose. Donc voilà, soyons attentifs à ce que cette parole qui s'ouvre aujourd'hui, et qui est une parole qui libère, ne s'éteigne pas. Alors, ce qui est nouveau aussi quand même, et là vraiment j'ai envie de le préciser, c'est la mise en place depuis le 1er janvier 2021 de la Commission nationale inceste, qui s'appelle la CIVISE, qui a été donc nommée par le gouvernement pour une durée de plusieurs années, 3 ans, je crois, 2 ou 3 ans, et qui déjà a fait des propositions et qui vont se transformer en décret ou en texte de loi. Donc peut-être pour la première fois, face à ces paroles qui viennent sur la place publique, on va peut-être transformer du coup ces paroles en actes. Voilà. Donc là, du coup, je trouve que ça, c'est un moment un peu nouveau, quoi. Et j'en suis plutôt optimiste, quoi. J'ai envie de l'être, quoi.
Qu'est-ce qui fait selon vous que là, en 2021-2022, on arrive à écouter et à prendre en compte justement ces paroles qui avaient été écoutées en discontinu ou en pointillé, par exemple comme celle d'Eva Thomas il y a 35 ans?
Alors c'est une, je crois que c'est une très très longue évolution. Hein, peut-être moi je vais revenir en arrière dans mon parcours professionnel parce que j'ai du coup un peu d'expérience et un peu d'ancienneté dans cette formation initiale d'éducateur spécialisé que j'ai réalisée. Avant justement la prise de parole d'Eva Thomas en 86, je me souviens que dans ma formation d'éducateur spécialisé, on me disait et on nous disait, nous étudiants à l'époque, que tout ce qui se passait à l'intérieur, alors c'est compliqué, on disait qu'à l'intérieur des familles, il pouvait se passer des choses graves, voilà, des choses bonnes et des choses graves, bien entendu, mais que tout ce qui concernait en particulier la conjugalité, ne concernait pas les acteurs de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, on a complètement changé notre optique, puisque aujourd'hui, on reconnaît par exemple que les violences conjugales sont les premières violences et les premières maltraitances sur enfants. Que les enfants sont aujourd'hui des co-victimes des violences conjugales. C'est tout récent quand même, hein, cette prise de conscience. Donc, on est héritier quand même d'une longue histoire où ce qui se fait à l'intérieur des familles est le domaine est un domaine totalement privé et on n'a rien à entendre de ce qui s'y passe. Voilà. Donc les textes de loi ont changé, hein, au fil du temps mais les mentalités, elles, ont peut-être changé moins facilement, moins rapidement. Et puis, je crois que là où on est aujourd'hui, c'est le fruit et le résultat aussi des luttes importantes des femmes, hein, des mouvements libération des femmes dans les années 60, 68, voilà, qui ont préparé aussi le mouvement de la libération de la parole de l'enfant. Hein, il y a d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, si on regarde sur un contexte plus géopolitique, dès lors qu'un pays commence à perdre en démocratie, ce sont les droits des femmes et des enfants qui vont disparaître en premier. Hein, donc ces acquis du droit des enfants sont des acquis très récents, quand même, qui ont pour la plupart moins de 50 ans et qui sont encore très fragiles. Donc voilà, donc cette parole qui se libère, je crois qu'elle se libère au terme d'années et d'années, de dizaines d'années d'essais de prise de parole, mais aussi de refus d'entendre cette parole. Voilà.
D'accord. Juste pour un peu resituer le contexte français par rapport aux violences intrafamiliales, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on connaît actuellement enfin, par rapport aux victimes? Ça représenterait quel pourcentage et combien d'enfants en France?
Alors les chiffres, c'est toujours très compliqué parce que dès qu'on dit un chiffre, évidemment, on risque de se faire retoquer en face en disant c'est pas exactement ça. Et voilà. En tout cas, aujourd'hui, et j'évoquais la commission inceste, hein, qui a une parole forte aujourd'hui et reconnue, on a une échelle, en tout cas, hein, prenons une échelle, où on sait que en France, on sait que 10% des enfants vont vivre, hein, vont subir une violence à caractère sexuel. 10%, c'est effectivement le chiffre bas. Si on est sur le chiffre haut, on serait à 20%. Donc voilà, il suffit de faire un calcul, hein, voilà, je vais vous laisser faire. Donc 10% des enfants, donc pour nous représenter les choses, sur une classe de 30 enfants, 3 enfants vont vivre durant leur enfance, hein, durant leur minorité, des violences à caractère sexuel. Sachant que les violences à caractère sexuel sont dans leur grande majorité des violences intrafamiliales et des violences dites incestueuses, donc commises effectivement par un membre de la famille, hein, ou souvent commises aussi par quelqu'un étant dans un cercle très proche de la famille et étant du coup pour l'enfant une figure quasi parentale. Voilà, en tout cas un adulte de confiance que connaît l'enfant. Et pour lequel, auprès duquel, du coup, il peut aller se confier. Voilà les chiffres qu'on a. Gardons 10%, en tout cas, sur les violences sexuelles.
Donc en fait, on peut se dire que ce qu'on n'a pas envie d'entendre et ce qu'on n'a pas envie de voir, ce que vous disiez qui est pratiquement le plus inentendable, c'est ce qui arrive le plus souvent en termes de violences sexuelles. Par rapport si on parle de les violences incestuelles par rapport aux autres violences sexuelles que peuvent connaître les enfants.
Oui, absolument. Oui, on est en train. Enfin, oui, je suis en train de dire, et on est en train d'échanger sur le fait que la plupart des violences sexuelles faites sur enfants ne sont pas faites par des personnes qu'on ne connaît pas, hein, comme alors que c'est ce qu'on imagine. Hein, protégeons nos enfants de l'extérieur, hein, et de l'étranger entre guillemets, hein, au sens le plus large. On pourra en reparler tout à l'heure. En fait, ces violences se passent à l'intérieur de nos familles, dans la grande majorité. Et c'est peut-être ça, justement, qui est insupportable. C'est ce renversement-là. Je ne suis pas en train de dire que toutes les familles sont dangereuses, mais je suis en train de dire qu'effectivement, il y a certaines familles dysfonctionnelles, voilà, et que la lucidité, être lucide, c'est toujours très douloureux. On préférerait penser qu'effectivement, cela a lieu ailleurs.
Est-ce qu'on continue sur cette lancée ou est-ce qu'on passe plus au... On va continuer là-dessus parce que du coup on est et puis après on passera plus aux questions de plus par rapport à l'émission les trois thèmes que je décrivais tout à l'heure. Alors. Parce que ça va nous emmener loin aussi.
Oui.
À... La question c'était
Là, on est.
quel système permet que machin.
Ouais,
Je sais pas si c'est
ça pourrait être 5-6 heures tout à l'heure.
ouais. Donc
Ça peut faire l'objet de plusieurs émissions, d'ailleurs.
pardon.
Ça peut faire l'objet de plusieurs émissions.
On est d'accord. Tous les sujets font ça à chaque fois. Oui, parce que je me disais, est-ce qu'on part sur quel système fait qu'on peut pas avoir qu'on peut pas voir ça en fait? Qu'est-ce qui fait que ce système peut se perpétuer en fait? Parce que visiblement, il touche énormément d'enfants, mais on ne sait pas comment le traiter, mais on veut pas le voir. Mais
C'est le non-dit, c'est le non-dit quoi, justement,
ouais.
qui permet qui permet la répétition. Enfin, cette question de la répétition, c'est justement, on sait que dès lors qu'un enfant va dire quelque chose et qu'il est entendu, parce qu'on peut dire et ne pas être entendu, dès lors qu'il dit quelque chose sur une violence dont il est victime, que sa parole est entendue et qui est mise en place l'accompagnement, les soins. Et le rappel à la loi, c'est-à-dire qu'on nomme la loi et l'interdit, en général, on est en train de casser la répétition transgénérationnelle. C'est ça. Voilà. Donc ce qui perpétue, hein, et ce qui fait que les choses ne s'arrêtent pas dans une famille, c'est effectivement le secret et le non-dit.
On va quand même pouvoir en parler parce que enfin on va quand même je vais quand même poser une question par rapport à ça. Donc ce que vous dites, c'est que c'est des choses qui existent, qui ont toujours existé, mais qui ont du mal à être dénoncées finalement. Alors, et que la parole des enfants a du mal à être dite dans un premier temps, et puis ensuite à être entendue et être accompagnée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait justement pour enrayer cette mécanique-là?
C'est enfin une question très très délicate. On entre dans un sujet et on est dans un sujet très délicat. Je vais aussi un peu revenir en arrière. Je crois que c'est vraiment important. On a appris des choses ces dernières années et je crois que du coup l'apprentissage qu'on a fait, il est bien de le communiquer. Quand on est victime de violences à caractère sexuel et qu'on est un enfant, on ne sait pas ce qui nous est tombé dessus. On n'a pas les mots pour parler de cette sexualité génitale adulte parce que l'enfant n'a ni le corps, ni la tête, ni le psychisme pour dire ce qui lui est arrivé. Donc, pendant très longtemps, quand on a fait de la prévention, on invitait l'enfant, on cherchait à ce que l'enfant puisse dire les choses. Mais c'est pas possible. L'enfant, il ne pourra dire les choses qu'à sa façon, qu'en fonction de son âge, avec les mots qu'il a à l'intérieur de lui, avec le corps qu'il a. Hein, la sexualité adulte, il ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est pas à l'enfant de mieux nous le dire, c'est à nous adultes de mieux entendre ce que l'enfant dit avec ses mots. C'est ça le travail, effectivement, de prévention. Donc voilà, c'est à nous adultes de mieux entendre, de mieux accueillir la parole de l'enfant. Et de trouver, du coup, éventuellement, les personnes relais après, vers lesquelles nous pourrons orienter cet enfant. Mais l'enfant, lui, partons du principe qu'il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire clairement. Voilà. Mais il ne pourra pas le faire mieux, lui, cet enfant. Hein? Si c'est clair. Il y avait une autre partie de question.
On se disait par rapport à la répétition, par rapport au fait que c'est pas si simple que les plaintes soient déposées, puis ensuite jugées, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on peut voilà enrayer la machine de la reproduction, de la répétition, et faire finalement que de dissuader les auteurs en fait? Parce qu'il y a d'un côté la protection, la prévention, puis il y a d'un côté une politique qui peut aussi dissuader.
Sur votre question, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà savoir aussi que lorsqu'un enfant fait part et raconte qu'il a été victime de violences, et de violences sexuelles en particulier, dans la très grande majorité des cas, des études ont été faites là-dessus, hein, sur ce qu'on appelle les allégations de violences subies, hein, dans la très très grande majorité, l'enfant dit quelque chose qui est vrai. Il peut parfois se tromper sur l'auteur. Parce que l'événement a été tellement violent qu'elle a pu brouiller ses repères, voilà ce qu'on appelle le traumatisme, hein, le trauma. Mais effectivement, dans la très grande majorité des cas, on sait dans plus de 95% des cas, l'enfant dit quelque chose de vrai. Voilà, donc si déjà on a ce repère-là, si déjà on sait que statistiquement, l'enfant ne peut pas inventer, hein, dans la très grande majorité des cas, une violence subie, eh bien effectivement, nous allons l'entendre, nous allons créditer sa parole, nous allons tout simplement l'accueillir, cette parole, en le remerciant de nous avoir dit quelque chose, que c'est un acte quand même très compliqué, et on va pouvoir du coup actionner la loi, puisque effectivement ce sont des actes totalement interdits, rappeler la loi, activer la loi, déposer plainte, puisque c'est notre responsabilité à nous adultes, effectivement, de protéger l'enfant, et puis de pouvoir orienter l'enfant vers les soins adaptés, hein, et ainsi, du coup, mettre un terme, arrêter ce qu'on appelle la répétition transgénérationnelle. On sait que, nous le disions tout à l'heure, ce qui permet malheureusement la répétition des violences sexuelles de génération en génération, c'est le secret et le non-dit. Donc partons du principe que lorsque l'enfant dit quelque chose, et même s'il le dit mal ou il le dit à moitié, effectivement, il nous dit quelque chose qui est certainement vrai. Alors pas forcément dans une vérité judiciaire, hein, une vérité qui serait une vérité de gendarmerie ou de police, mais il dirait en tout cas d'une violence qu'il a subie. Charge après aux services spécialisés, hein, gendarmerie et police, après, eux, de faire un travail d'enquête. Mais en tout cas, l'enfant nous dit qu'il y a quelque chose de grave et de violent qui lui est arrivé.
Pour enchaîner justement sur les démarches qui peuvent suivre ce genre de révélation, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'adulte ? Donc soit en tant que parent, soit en tant qu'éducateur, soit en tant qu'instit, en tout cas tout adulte qui peut être dépositaire justement de cette parole-là. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Quelle machine se met en branle à partir du moment où on va prendre la décision de se dire, voilà, je vais en parler et je vais en référer aux personnes dont c'est le métier de gérer ce genre de situation ?
Alors, moi, j'ai envie de rappeler qu'en tant que parent, on a un ensemble, hein, ce qu'on appelle l'autorité parentale, on a un ensemble de droits et un ensemble de devoirs. Hein, et l'ensemble des devoirs, et l'un des devoirs en tant que parent, c'est de protéger notre enfant. Donc dès lors qu'effectivement on pense que notre enfant est en danger, nous sommes en tant que parents dans une responsabilité de mettre en place les soins nécessaires, l'accompagnement nécessaire, sauf que beaucoup de parents n'ont pas forcément, je crois que c'est votre question, les repères nécessaires. Qui alerter, comment on fait ? Alors, les professionnels, eux, sont globalement mieux formés à cela, mais il reste encore quand même du chemin à faire. Alors moi, j'ai envie de rappeler déjà ce qu'on appelle le numéro vert national, qui est le 119, hein, qui est donc un numéro de téléphone qui a été créé il y a longtemps, maintenant, en 1989, qui est un numéro gratuit, hein, et qui permet à quiconque qui est inquiet au sujet d'un enfant potentiellement en danger, donc là c'est toute forme de danger ou de maltraitance, de pouvoir appeler ce numéro, déjà pour avoir des informations, parce que c'est un lieu ressource aussi, le 119, et puis pour effectivement faire état des inquiétudes. Donc en face là, on a un professionnel qui saura nous aiguiller, hein, et nous indiquer la démarche à suivre. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est le point de repère essentiel. La deuxième démarche, en tant que parent, ou en tant que citoyen d'ailleurs, et en tant que citoyen, c'est que dès lors que nous pensons qu'un enfant est en danger ou en risque de danger, c'est-à-dire qu'on n'en a pas forcément la preuve, bien effectivement c'est de protéger l'enfant et bien entendu de nous tourner aussi vers les services de police de gendarmerie pour aller déposer plainte. Et ensuite effectivement, voilà, la machine judiciaire se mettra en marche. Il y a aussi la possibilité, c'est la troisième possibilité, et ça peut être les choses, effectivement, l'une ou l'autre, et les unes et les autres, c'est effectivement d'aller voir les services de protection maternelle et infantile, le service social de secteur, pour aller faire part, en tant que parent, de nos inquiétudes pour l'enfant. Et là, on a face à des professionnels qui sauront, effectivement, aiguiller les parents pour protéger leur enfant.
Et concrètement, suite à ça, il peut se passer quoi? Est-ce qu'il y a une enquête sociale? Est-ce qu'il y a y a des personnes qui viennent? On est face à qui? Est-ce que c'est des personnes, la protection de l'enfance? Est-ce que c'est des juges? Voilà. Est-ce que c'est des experts? Et voilà. Enfin, si on pour essayer un peu d'imaginer qu'est-ce qui peut arriver, ça ressemble à quoi?
La protection de l'enfance en France, c'est une organisation qui est très complexe et qui fonctionne bien. Il y a plusieurs acteurs. Les premiers acteurs, c'est les professionnels du département. Donc le département en France, chaque département est en responsabilité de la protection des enfants et des mineurs sur son territoire. Donc la première possibilité qu'en vont avoir les parents, c'est effectivement, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, de contacter les services sociaux, les services de la protection maternelle et infantile. Lorsqu'on a une crainte concernant un enfant qui est en danger ou en risque de danger, on va saisir effectivement les acteurs départementaux qui vont mettre en place une évaluation, c'est-à-dire à partir d'une inquiétude, vérifier si cette inquiétude est fondée ou pas. Donc là, effectivement, les parents vont bénéficier de la rencontre avec en général deux professionnels, un travailleur social et puis un acteur de la petite enfance, souvent une puéricultrice, qui vont effectivement rencontrer les parents et l'enfant pour voir effectivement est-ce que le danger est avéré, quelle est la nature du danger et que faire. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une évaluation, hein, ce qu'on appelle une information préoccupante, hein, qui dure normalement 3 mois. Et qui permet, au terme des 3 mois, d'en savoir un peu plus sur la nature du danger et sur les soins et l'accompagnement qui doit être apporté aux parents et à l'enfant. Donc ça, c'est une action administrative, hein, préventive. Et puis il y a une deuxième action peut se faire du côté des juges des enfants. Hein, donc en France, effectivement, il y a dans chaque tribunal judiciaire, hein, des juges des enfants que les parents peuvent saisir directement. C'est le seul juge que, en tant que citoyen, on peut saisir directement, sans passer d'ailleurs par un avocat. On peut saisir un juge par enfant avec un simple courrier. Voilà. Et on peut, effectivement, en tant que parent, saisir un juge en lui écrivant un courrier, voilà, en faisant part des vives inquiétudes qu'on peut avoir sur son enfant concernant des dangers qu'il peut vivre. Voilà. Et là, le magistrat peut se mobiliser. Voilà. Hein, il en a la possibilité, en tout cas, de recevoir les parents, hein, qui en font la demande dans un entretien qu'on appelle une audience de cabinet, hein, au sein du tribunal pour enfants de chaque grande ville. Il y a un tribunal judiciaire, il y a un tribunal pour enfants. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, bah, effectivement, la possibilité, bien entendu, d'avoir recours au service de police gendarmerie pour pouvoir porter plainte. Voilà les trois grandes. Voilà. Et puis, il y a aussi la possibilité, parce que là, on est sur des actions de prévention administrative ou judiciaire, la possibilité aussi d'aller consulter, demander une consultation auprès d'un professionnel, je pense au psychologue en particulier, leur demander un premier avis, voilà, demander une consultation. Qui, effectivement, psychologues pourront aussi après eux-mêmes faire les démarches et soutenir les parents dans les démarches qu'ils devront entreprendre.
D'accord. Et pour l'enfant, ça peut représenter, imaginons combien de fois raconter son histoire, combien de professionnels on peut avoir à rencontrer. Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé, ça, le fait que pas avoir forcément à raconter à chaque fois, pas avoir à se voilà, à répéter quelque chose qui a été douloureux.
Alors, je l'évoquais tout à l'heure, hein, la protection de l'enfance est un service qui a beaucoup évolué, hein, et on a été très attentif à ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire on sait que plus l'enfant va répéter les violences qu'il aurait subies, plus il risque effectivement à chaque fois de se trouver en difficulté, hein, et dans une nouvelle souffrance, hein, ce qu'on appelle les phénomènes de victimisation secondaire. J'ai été victime et quand je raconte une nouvelle fois ce que j'ai subi, en même temps c'est nécessaire parce que l'adulte pour me protéger, il doit entendre ce que j'ai vécu. Mais en même temps si je le répète trop, effectivement ça va me faire du mal. D'une part ça va me faire du mal et d'autre part je risque de ne plus avoir envie de le dire et de me taire. où je risque éventuellement de dire autre chose, d'esquiver, parce que je suis un enfant, parce que j'en ai marre, parce que... voilà. Donc du coup, les services de protection de l'enfance sont très attentifs aujourd'hui à tenter d'éviter de faire répéter à l'enfant trop de fois son histoire. Hein, et en particulier, les services de police et de gendarmerie, aujourd'hui, lorsqu'ils entendent un enfant qui a été victime de violences à caractère sexuel, par exemple, vont effectivement mettre en place, et c'est une obligation, un enregistrement audiovisuel. D'accord ? Donc l'enfant va être enregistré, filmé et enregistré, pour lui éviter effectivement cette répétition de son histoire douloureuse. Voilà, donc beaucoup de soins aujourd'hui sont apportés pour évidemment que l'aide n'apporte pas, j'ai envie de dire, ou n'augmente pas la violence de l'enfant, la violence subie par l'enfant initialement, quoi.
Du coup, en tant qu'adulte et en tant que parent, qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille sans que l'enfant le dise clairement, mais qu'est-ce qui peut nous interpeller et peut-être être le signe justement qu'il y a un souci et qu'il y a quelque chose du côté des violences sexuelles subies par un enfant?
Ce à quoi on doit être vigilant, et là je pense aux parents et aux professionnels d'ailleurs, c'est les changements importants de comportement d'un enfant. Je pense par exemple à un enfant qui est plutôt un enfant tonique, qui tisse des liens facilement avec les autres enfants. Qui d'un seul coup, effectivement, va aller à l'école, par exemple, je pense à l'école maternelle ou à la crèche, et puis d'un seul coup, les professionnels constatent que cet enfant, d'un seul coup, il est replié, il se cache, il semble avoir peur. En tout cas, son changement son comportement montre, hein, exprime un changement important. Donc ça, c'est une première chose. Ceci dit, on peut un jour être différent d'un autre parce qu'on est triste, parce que voilà. Donc la première chose, c'est un changement de comportement important qui dure et qui s'installe durablement et pour lequel on ne trouve pas d'explication logique. Parce que on peut se dire qu'un enfant, comme un adulte d'ailleurs, peut un jour avoir un souci. Il vient d'entendre, par exemple, que sa maman est au chômage ou son papa est au chômage. Donc effectivement, cet enfant va rejoindre l'école, va rejoindre la crèche et du coup va avoir un comportement différent. Là, c'est OK, tout va bien. Hein, cet enfant est envahi par un souci et donc il montre, voilà, il vit et il nous montre un changement. Donc à ce moment-là, on a un changement de comportement, mais qui est relié à un événement précis. Tout va bien. L'enfant nous montre qu'il compose avec son environnement. Ce qui va nous mettre vraiment la puce à l'oreille, c'est un changement de comportement sans explication logique et rationnelle. Voilà. Donc c'est vraiment la première chose. Mais on va être prudent. Moi, je ne voudrais pas non plus inquiéter tous les parents. C'est effectivement ce changement de comportement durable et qui s'installe peut être lié à différentes causes. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire. Là, on commence à réfléchir. Qu'est-ce qui fait que cet enfant montre un changement aussi important, surtout en l'absence d'explications rationnelles et logiques?
Et puis vous disiez aussi, si quand on commence à avoir des inquiétudes, est-ce qu'il est de notre ressort à nous d'interroger directement l'enfant? Si oui, comment? Et puis sinon, pourquoi?
Alors, je dirais que oui, c'est notre responsabilité, bien sûr, d'aller voir l'enfant, tout simplement, de lui signifier, de lui demander déjà la première chose, c'est qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, c'est-à-dire de nous interroger, nous l'inviter à parler de ses émotions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es triste? Lui donner parfois, parce que les enfants, lorsqu'ils ne vont pas bien, peuvent être en difficulté pour exprimer et pour même eux-mêmes reconnaître leurs émotions intimes. Voilà. Et donc nous, en tant qu'adultes ou en tant que parents, on peut proposer à l'enfant des pistes. D'ailleurs, on peut d'ailleurs d'abord lui dire, tu vois, j'ai l'impression, alors on va y aller avec des précautions oratoires. Il ne s'agit pas, nous, de plaquer nos sentiments et nos impressions sur l'enfant. Hein, elles lui appartiennent. Mais l'enfant peut être en telle difficulté pour dire ou exprimer ses ressentis qu'il a besoin des fois qu'on lui prête nos mots et nos émotions. On va lui prêter en lui disant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Donc on va y aller avec prudence, mais effectivement, on va du coup, il va comprendre qu'il y a d'un seul coup un intérêt, une attention portée à lui, une confiance en fait qu'on installe avec lui, voilà, un échange qu'on lui offre, et peut-être du coup, là pourra-t-il s'adosser à nos mots et à nos émotions pour pouvoir lui-même du coup trouver ses propres mots et ses propres émotions. Donc vraiment cette enveloppe hein, de mots, cette enveloppe d'émotions qu'on va prêter à l'enfant pour qu'il, à l'intérieur, il trouve les siennes. C'est d'abord la littérature, je pensais à la littérature enfance-jeunesse, hein, aujourd'hui propose beaucoup d'ouvrages extrêmement passionnants là-dessus. C'est-à-dire l'enfant va utiliser, en fonction de son âge, avec l'aide d'un adulte, ou sans l'adulte d'ailleurs, en fonction de l'âge que de l'enfant, va trouver à l'intérieur de ces pages, à l'intérieur effectivement des textes, à l'intérieur des images, hein, effectivement des appuis pour trouver à s'exprimer, des appuis pour dire les choses. Voilà. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc c'est vrai que j'invite vraiment les parents à... offrir à l'enfant toute une littérature. Je pensais là, avant de préparer cet entretien, enfin de vous rencontrer, je pensais en particulier aux trois livres qui sont réalisés par Andrea Bescon. Hein, et si on se parlait, ça s'appelle, hein, il y a trois ouvrages effectivement en fonction de l'âge des enfants, hein, 3, 6, 7, 10 et puis au-delà de 10, qui sont justement des ouvrages qui permettent d'engager un échange avec un enfant. Voilà. On n'est pas là, me semble-t-il, pour poser des questions fermées à l'enfant, parce qu'il ne saura pas y répondre. Et puis ce sont nos mots d'adulte qui peuvent le coincer, ou ils peuvent ne rien comprendre à nos mots d'adulte. Donc servons-nous d'ouvrages, par exemple, qui vont effectivement être un médiateur entre moi et l'enfant, entre moi et mon enfant. Voilà, il y a des choses extrêmement intéressantes qui existent au jour d'aujourd'hui.
Donc oui, ce que j'entends, c'est plus offrir un espace de parole finalement qu'aller vraiment chercher à avoir des informations quelconques.
Oui, absolument. Alors en tant que parent, effectivement, ne pas se poser en enquêteur, quoi. Voilà. Hein, effectivement, ouvrir un espace de parole, absolument. Demander à l'enfant s'il y a quelque chose qui va pas. Demander à l'enfant s'il a mal, si on lui a fait mal. Voilà, mais des questions très ouvertes, finalement. Voilà, et voir ce que l'enfant peut nous dire à partir de là. Oui, absolument, oui. Oui, ce travail de questions fermées et très très précises sera éventuellement, si ça arrive là, le travail des enquêteurs, hein, et des services de police et de gendarmerie. Le parent, il est là, je dirais, avant tout pour envelopper l'enfant effectivement d'une bulle protectrice de mots et d'émotions, voilà, qui vont permettre à l'enfant de pouvoir se laisser aller. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'un enfant qui a été victime est un enfant qui souvent a été sidéré. D'un seul coup, sa pensée, ses mots, ses émotions ont disparu. Voilà. C'est ça la sidération. Je ne peux plus rien dire, je ne peux plus rien penser, je ne peux plus être en colère. Voilà. Et donc du coup, une des premières choses, c'est justement de réanimer cet enfant, hein, et de lui redonner les mots, les émotions qu'on lui a enlevées.
Pour continuer sur cette question de la prévention, en tant que parent, instinctivement, on va dire un peu dans les grandes lignes, on peut avoir tendance à dire... si on te touche, si on te fait quelque chose que tu n'as pas envie qu'on te fasse, tu dis non. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pu dire à ma fille de 6 ans. Et c'est quelque chose qui est aussi dans un livre qui s'appelle Le Loup, où on voit la petite fille qui fait un gros non. Comme ça. Et donc j'en ai changé avec une amie qui elle a été victime de violences sexuelles en tant qu'enfant et elle m'a dit mais en fait c'est pas vrai, on peut pas dire non comme vous le disiez parce qu'au moment où on le vit on peut ni parler ni penser ni rien faire donc je me suis dit bah oui en fait je dis ça à mes enfants mais c'est pas ça qu'il faudrait dire. Donc sur ce chapitre de la prévention qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on accompagne l'enfant justement pour prendre conscience déjà un de son corps, des différentes parties de son corps, et puis de son intimité finalement.
Alors, dire à nos enfants quand même que effectivement son corps lui appartient, hein, et son intimité, et que personne effectivement ne peut en faire usage, c'est extrêmement important. Hein, donc effectivement, quand on dit à nos enfants, ben, effectivement, personne ne peut toucher ton corps sans ton accord, hein, voilà, on parle d'intimité, on parle de pudeur, et là on dit des choses très précieuses pour un enfant. Hein, voilà. Donc ça, c'est pas inutile du tout. Hein, c'est fondamental. Hein, c'est toute la construction de l'intimité. Voilà. Hein, il y a quelque chose de mon intimité dans laquelle personne ne peut rentrer sans mon accord. Voilà. Et quand on est enfant, qu'est-ce que c'est que cet accord ? C'est compliqué. Donc, effectivement, expliquer ça aux enfants, c'est très très important et c'est très précieux. Même si, effectivement, vous avez raison, lorsqu'un enfant... D'ailleurs, un adulte aussi, hein, je crois que c'est vraiment important de le rappeler, est victime d'une violence grave, et par exemple d'une violence incestueuse, effectivement, sous l'effet de la sidération, hein, il peut y avoir une paralysie totale, et donc l'impossibilité de crier ce non. Hein, effectivement. Mais on peut se dire non dans sa tête aussi. Voilà, hein, donc alors, ça ne nous protégera pas directement, mais les paroles de nos parents seront quand même des paroles protectrices. Voilà. Hein, donc ça c'est important.
Par rapport à la prévention primaire, comment on parle de son corps aux enfants, comment on nomme les parties de son corps, qu'est-ce qu'on injecte dans notre vie de famille de tous les jours justement pour apprendre à apprivoiser ce corps et en comprendre les parties, on va dire intimes, les parties qui sont publiques, on va dire.
Alors, c'est la question de la prévention, c'est une question extrêmement délicate. Moi, j'ai participé, il y a quelques années de cela, à des campagnes de prévention. On allait voir des enfants avec un petit film québécois, extrêmement bien fait, qui s'appelle « Mon corps, c'est mon corps ». Et on passait ce film à des enfants en espérant que... les enfants, finalement, allaient pouvoir s'identifier au personnage de ce film et pouvoir, du coup, interpeller leur instituteur hein, ou leur professeur en disant « Moi aussi, il m'est arrivé quelque chose. Voilà. » Alors, ça marchait en partie, puisqu'effectivement, après la présentation de ce film, certains enfants allaient voir l'instit en disant « Moi, il m'est arrivé quelque chose. » Et du coup, l'instit pouvait alerter, prévenir les parents et on pouvait faire ce qu'il fallait pour protéger cet enfant. Voilà, ça c'est une première chose. Mais en fait, on s'est rendu compte aussi que certains enfants, on leur faisait violence en présentant ce film. Moi, je me souviens d'une enfant en sixième qui un jour a dit à sa mère « Mais j'en ai marre, on nous parle toujours des choses qui font peur et pas des choses qui sont bonnes et qui sont belles. » Et elle avait raison, cet enfant. C'est-à-dire que si on doit parler aux enfants et faire de la prévention en particulier, et de pouvoir dire qu'il y a effectivement, et ça existe, et c'est la réalité, qu'il y a des gens qui peuvent me faire du mal. Des gens qui peuvent avoir avec moi, sur moi, commettre, me toucher mon corps, qu'ils n'ont pas le droit. Si on parlait aussi de la sexualité qui fait du bien. C'est-à-dire qu'effectivement, comment à la fois il est possible et on doit prévenir les enfants d'un certain nombre de risques, mais en même temps leur faire part aussi de ce qui est beau dans la vie. C'est une histoire d'équilibre. Voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et ça, quand on passait ce film Mon corps, c'est mon corps, on allait voir après les instits, effectivement, et lorsque l'instit nous disait cet enfant est venu me voir après la projection, on demandait à l'instit, mais est-ce que finalement il ne vous l'a pas dit auparavant? Et la plupart du temps, l'instit disait, ben si, finalement, je crois qu'il me l'a dit auparavant, mais moi, je n'ai pas pu entendre. Et après, du coup, on s'est dit, ce film, est-ce qu'il est à présenter aux enfants ou finalement à présenter aux adultes? Je reviens au début de notre entretien, nous n'avons pas à demander aux enfants de mieux nous le dire, mais nous avons, nous, adultes, à mieux voir, à mieux entendre ce que l'enfant nous dit entre deux portes, souvent, à mi-mot. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, effectivement, parlons à l'enfant, bien sûr, de ce corps, de son corps, que personne ne doit toucher, sauf ceux qui sont effectivement là pour le protéger, je pense à ses parents. Voilà, mais parlons aussi que ce corps, pour soi, c'est un corps de découverte, c'est aussi un corps de plaisir, c'est un corps qui nous permet de faire plein de choses. Voilà, c'est-à-dire tenir ces deux discours. Sinon, on est dans une prévention qui fait peur. Voilà. Et si dans la prévention, on crée de la peur, je pense qu'on rate ce que l'on vise. Et on est même contre-productif. Donc c'est un exercice très délicat, le travail de prévention.
Oui, une instite avec le planning familial. Ah ouais.
C'est délicat, hein. Parce que sinon on peut vite les fouiller, quoi. On peut être traumatisant. Enfin, j'ai pas envie de le dire comme ça au micro, mais voilà, c'est délicat. Hein, je
Alors, ouais, moi, quand je pensais à ces histoires de prévention, je me disais, mais enfin, il y a quand même, oui, il y a cette histoire de s'adresser aux victimes, et puis il y a aussi cette histoire de s'adresser aux auteurs. Qu'est-ce qui pourrait être dissuasif, en fait? Qu'est-ce qui, enfin, on entend avec le mouvement MeToo, on a beaucoup entendu parler de la culture du viol. Il y a peut-être quelque chose d'un peu d'un parallèle à faire par rapport aux violences incestuelles. Je ne sais pas si un mot est exact, mais voilà, qu'est-ce qui fait que c'est autant possible et qu'est-ce qui pourrait être vraiment dissuasif, en fait? Je ne sais pas si ma question, elle est...
C'est une question extrêmement délicate, mais en même temps passionnante. Parce que là, ce qui me vient, moi, c'est comment, finalement, est-ce qu'on peut limiter ces violences faites sur les enfants? Je pense que oui. Effectivement, et du coup, vous m'emmenez sur le chemin là des victimes, des auteurs, pardon. Mais mon lapsus, il n'est pas complètement par hasard, parce que ce que l'on sait, c'est que chez la grande majorité des auteurs, les auteurs ont été, pas tous, hein, bien entendu, une bonne partie eux-mêmes victimes. Une grande partie des auteurs d'agressions sexuelles ont subi eux-mêmes des violences sexuelles quand ils étaient enfants, et que ce sont d'anciens enfants blessés qui n'ont pas malheureusement eu un adulte qui a su entendre leur souffrance, la voir, porter cette parole vers des lieux de soins, porter cette parole là où la loi devait être entendue et être prononcée, effectivement. Et du coup, ce sont des adultes souvent qui portent en eux des souffrances extrêmes. En disant ça, je crois que c'est très important, expliquer n'est pas excuser. Hein, voilà, je ne suis pas en train de dire c'est que cela excuse les actes que ces adultes vont commettre eux-mêmes sur d'autres enfants. Mais de savoir que dans une grande majorité des cas, ce sont des anciens enfants blessés qui souffrent encore, ça nous laisse aussi une grande marge de manœuvre en se disant que protéger les enfants aujourd'hui, entendre les enfants blessés aujourd'hui et faire ce qu'il faut pour qu'ils aillent mieux, c'est aussi éviter la répétition dans la génération d'après, quoi. Voilà, donc on travaille à la fois pour les enfants aujourd'hui qui ne vont pas bien, Et on travaille aussi pour en faire des futurs parents et des futurs adultes qui ne reproduiront pas ces actes-là sur d'autres personnes et sur d'autres enfants. Et ça, c'est cette connaissance qu'on a des auteurs de violences sexuelles, en tant que souvent ancien enfant blessé, ancien enfant violenté, est une connaissance assez récente.
Alors, là, je ne sais pas exactement comment formuler cette question, mais ce serait autour de... Alors, en posant là, cette question de dissuader les auteurs, je pense aussi à une campagne qui a été faite en Écosse où on s'adressait justement pas aux victimes, mais aux auteurs, et c'était un petit spot où, en gros, c'était le hashtag Ne sois pas ce mec-là, ne sois pas ce mec qui harcèle, ne sois pas ce mec qui tient des propos sexistes, c'est plutôt autour des violences faites aux femmes. Maintenant, on s'adressait justement aux hommes, là, du coup, qui malheureusement sont encore les premiers, enfin, en grande majorité, les auteurs de violences sexuelles. Justement, en off, on parlait d'un décret de loi qui sortirait a priori début février, justement sur le droit à ne pas présenter l'enfant dans les cas de garde alternée quand le deuxième parent a des soupçons de violences sexuelles. Moi, ça me fait penser aux revendications aussi qu'ont les papas actuellement enfin, certains papas actuellement avec la marche des pères, en revendiquant la garde alternée et le fait de pouvoir éduquer leurs enfants à 50% et autant que les mamans. Et justement, avec des revendications autour de ces questions de non-présentation des enfants. Comment on fait, en fait, dans le même temps pour tenir à la fois l'importance de la place des pères et du deuxième parent dans les familles, d'une manière générale, sur le terrain de l'égalité femmes-hommes, tout en ayant aussi conscience de ces chiffres, en fait, et du fait qu'un certain nombre de violences intrafamiliales sont faites par des pères, des oncles, des grands frères et que c'est une réalité qu'aujourd'hui on commence à connaître et à admettre. Je sais pas si vous pouvez réagir à ça, mais moi c'est une question que je me pose.
Alors, parce que moi j'ai quelques précisions qui me paraissent fondamentales, parce que cette question, elle nous amènerait, si on n'est pas vigilant, à nous intéresser d'abord aux droits des parents. Peut-être que du coup, il faut retourner un peu les choses, c'est le droit de l'enfant et le respect de l'enfant. Le décret qui doit effectivement sortir le 1er février prochain, alors je vais en parler avec quelques réserves, parce qu'il n'est pas sorti et que du coup, effectivement, qui est une préconisation de la commission inceste, doit, alors on va être le plus précis possible, c'est dans le cas où un enfant évoque, parle de violences sexuelles incestueuses dont il pourrait être victime, hein, et commis par l'un de ses parents, hein, dans le cas par exemple de parents séparés. Si ce parent qui reçoit la parole de l'enfant dépose plainte, et si là effectivement il y a une enquête qui est mise en place, donc seulement dans le cas d'une enquête, hein, c'est vraiment très très précis, à ce moment-là, et le temps de l'enquête, pour vérifier effectivement si l'enfant ne serait pas en danger chez son parent, hein, et bien effectivement, si l'enfant doit retourner chez son parent, par exemple le week-end, hein, effectivement, pendant le temps de l'enquête, l'enfant ne serait plus contraint de retourner chez le parent qui serait potentiellement l'auteur de ces faits de violence sexuelle incestueuse. Donc c'est très encadré cette affaire-là. Voilà, donc ça c'est une avancée importante. Donc je pense qu'aujourd'hui, et moi je le vois en tant qu'expert auprès des tribunaux, on pense plus aux droits des parents qu'aux droits et aux besoins fondamentaux de l'enfant. Les juges des affaires familiales souvent sont en train de regarder. Porte une attention sur l'équilibre des droits entre les deux parents, Voilà. Mais cet équilibre des droits entre les deux parents, qui est à prendre en compte, est-ce qu'il est toujours respectueux des besoins fondamentaux de l'enfant? Voilà, c'est pas certain. Donc ça, c'est une question importante. À qui pense-t-on au premier? Voilà. Ça, c'est fondamental. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est quand on parle de violences incestueuses, et on sait qu'une grande majorité des violences incestueuses sont commises par des hommes, des pères, des oncles, des grands-parents, des grands-pères. Voilà. Mais il est aussi important de nommer et de préciser qu'il y a des violences incestueuses qui sont commises par des femmes, des mères, des grands-mères, des tantes. Voilà. Mais que ces violences-là sont... Alors, autant l'inceste, et de toute façon, est un sujet très délicat, très tabou, très douloureux, qu'il est déjà difficile de parler de l'inceste père-enfant, père-fille, père-fils, commencer à parler des incestes commis par des femmes et par des mères est un sujet extrêmement délicat. Or, il existe des situations, effectivement, d'inceste qui sont commis très précocement dans les soins de maternage, dans les soins de nursing mère-enfant. Voilà. Hein, et cela est très difficile d'abord à repérer parce que ça se passe dans l'intimité familiale et puis qu'on ne pourra pas non plus le voir, prévenir et aider aussi ces femmes et ces mères en difficulté et bien sûr ces enfants en grande souffrance si on n'a pas en tête que cela existe. Voilà. Donc si une grande majorité ces incestes sont commis par des hommes, les incestes commis par des femmes existent aussi. Voilà. Donc nous avons là aussi un devoir de lucidité.
Un peu un paradoxe du parent, finalement. Je pense notamment aux parents de jeunes filles adolescentes. Voilà, où on aurait un côté à se dire « va, vis, deviens, prends la parole, sors, habille-toi comme tu veux », et un côté de se dire « non mais mon Dieu, le monde est plein de dangers, reste à la maison et protège-toi en fait ». Et du coup, c'est quoi la voie médiane, justement, pour pouvoir avoir une parentalité, comme vous dites, lucide, mais en même temps responsabilisante et qui puisse rendre autonomes les enfants? Allons-y, vous avez 4 minutes.
C'est ça, j'ai 4 minutes pour dire ce qu'il devrait être. Non, je ne sais pas. En tout cas, vous pointez et vous nommez la délicate posture du parent. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on est... on se doit, vous voyez, je vous parlais de lucidité, j'ai beaucoup parlé de lucidité, je crois, pendant cet entretien, on se doit d'être lucide. Lucide là où notre enfant, lui, ne peut pas l'être encore. Vous évoquez l'adolescence. À l'adolescence, on a à la fois ce corps qui change, mais d'ailleurs ce corps qui change plus vite que notre tête, que notre psychisme. Et on a, par exemple, au début de l'adolescence, au début de la puberté, un corps qui se sexualise sans même que l'enfant puisse se rendre compte que ce corps change. Il en est surpris, il en est étonné, il en a peur, ou au contraire, il l'attend, mais de toute façon, il est débordé par ce changement pubertaire. Hein, la puberté, c'est toujours quelque chose qui nous a attaqué un jour. Ça nous est tombé brutalement dessus. Voilà. Et donc, l'enfant... il a un corps, l'enfant qui est en train de devenir un adolescent, qui est un adolescent dans son corps, mais un enfant dans sa tête. D'accord ? Voilà. Il a un corps d'adulte, mais avec une tête de nourrisson. C'est pas très... Voilà. Hein, on voit bien ce que c'est. En sixième, on a effectivement des corps d'adultes comme ça, avec des têtes de nourrisson. Voilà. Et notre travail, justement, ou notre responsabilité en tant que parent, c'est de savoir que notre enfant, en train de devenir... une femme ou un homme, mais il y a du chemin encore à faire, et finalement, il a besoin de notre protection. Il a besoin qu'on nomme pour lui, d'ailleurs, il ne va pas vouloir toujours l'entendre, hein, mais que effectivement, d'un seul coup, il produit quelque chose qu'il ne sait même pas. Hein, Donc comment on fait, et moi je n'ai pas de réponse évidemment, enfin évidemment sinon je l'aurais déjà écrit, mais comment on va faire pour effectivement ne pas effrayer l'enfant? Parce que sinon effectivement on peut nous-mêmes produire finalement sans le vouloir une forme de violence sur notre enfant, et en même temps bien sûr ne pas le laisser complètement nu. Dans un monde dans lequel il pourrait être exposé, quoi. Je vais prendre un exemple qui est peut-être qui est éloigné du champ des violences sexuelles, peut-être pour penser plus simplement les choses et être moins effrayé. Il y a quelques années, j'avais une femme en psychothérapie, voilà, et un jour, elle me parle de sa fille. Sa fille est en sixième ou en cinquième, et cette femme a toujours dit à sa fille qu'elle ne voulait pas qu'elle fume la cigarette, voilà. Position très ferme, très précise, voilà. Et un jour, cette femme quitte son boulot un peu plus tôt et elle veut faire la surprise, qui est toujours une mauvaise chose, hein, elle veut faire la surprise à sa fille d'aller la chercher à la sortie du collège. Bon, voilà, ça ne se fait pas. Et elle surprend sa fille en train de fumer une cigarette. Elle fait demi-tour, elle rentre chez elle, elle n'est pas bien, et voilà. Et elle me parle de ça en me disant, mais j'ai toujours dit à ma fille que je ne voulais pas qu'elle fume. Elle est en train de fumer là devant le collège. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai dit pour l'instant, c'était nul, c'était inutile. Voilà. Et ma réponse a été de lui dire, mais non, pas du tout. Effectivement, votre fille, elle a intégré tous ces interdits. Mais là, effectivement, il y a un petit moment où avec ses amis, ou pour plein de raisons différentes, elle va enfreindre la loi posée par la mère, mais c'est pas grave, elle sait ce que vous avez dit, voilà. Ce que vous avez dit, la protection que vous lui avez donnée par les mots, ça infuse à l'intérieur d'elle. Alors si j'en viens maintenant aux violences sexuelles, lorsqu'on dit à nos enfants, par exemple, on va donner à notre enfant un portable, un smartphone. Hein. Souvent, c'est en entrée en sixième d'ailleurs. Voilà, une période toujours très, très charnière. On sait par exemple qu'il est très facile sur un smartphone d'avoir accès à des sites à caractère pornographique. Que les contrôles parentaux sur les téléphones, ça ne marche pas très bien. Et que quand bien même on ne donnerait pas un portable à notre enfant, un smartphone, il y aura bien un copain qui lui en aura un. Et voilà. Est-ce que du coup, l'accès à la pornographie, qui est facilitée au jour d'aujourd'hui, évidemment, fait de tous nos enfants des enfants traumatisés? Non, on le saurait. À partir du moment où on a pu dire à nos enfants en amont, je ne veux pas que tu ailles sur des sites pornographiques, sexuels, enfin, on va trouver chacun nos mots pour le dire, mais à partir du moment où on dit à notre enfant cela, effectivement, quand bien même il ira, lui-même ou invité fortement par un copain, eh bien, le fait qu'on lui a posé au départ cet interdit fonctionnera comme une enveloppe protectrice. Bien sûr qu'il sera confronté du coup à de la sexualité un peu trop précocement, parce que aujourd'hui l'accès est facilité. Mais en même temps, ça fonctionnera grâce à l'interdit qu'on aura posé auparavant comme une cage de Faraday. Vous voyez cette cage de Faraday, c'est la foudre, elle me tombe dessus, enfin elle me tombe, mais du coup elle passe autour. Hein, c'est une bulle protectrice. Donc les noms, les interdits que nous posons à nos enfants, même s'ils sont enfreints par l'enfant, fonctionne quand même comme une cellule protectrice. Donc ça, c'est important, parce qu'on pourrait aussi avoir, et c'était une de vos questions tout à l'heure, une représentation du monde aujourd'hui qui est un monde extrêmement dangereux, hein, voilà, où on courrait des risques en permanence. Non, je ne crois pas plus qu'il y a 30 ans, 40 ans, on court d'autres risques, il y a d'autres moyens, mais nos paroles, à partir du moment où elles sont protectrices, et elles passent par « non, je ne veux pas que tu ailles sur des sites sexuels, pornographiques, parce que ce n'est pas de ton âge », et que ça, on doit pouvoir le formuler, comme on peut, comme on le sent avec nos mots en tant que parents, ça a une fonction éminemment protectrice. Et par contre, ne pas le dire serait une erreur, mais le dire protège. C'est-à-dire que l'enfant va quand même peut-être aller sur la sexualité, mais ça n'aura pas un impact traumatique. Bien sûr, ça aura un impact sur lui, mais ça n'aura pas d'impact traumatique. C'est-à-dire ça n'aura pas de conséquences graves sur son développement. Tout va bien.
Est-ce que vous avez envie de conclure avec quelque chose en particulier ?
Ben oui, parce que voilà, on a beaucoup parlé de lucidité. Y a un autre mot que je voudrais mettre en parallèle de la lucidité. C'est ce que j'appelle un fil tendu. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on doit effectivement être lucide. Donc la lucidité passe par justement le fait de nommer des choses parfois difficiles. Il existe des dangers. Voilà, ça s'appelle la lucidité. Un parent non lucide est un parent non protecteur. Mais en même temps, comment tenir aussi l'autre bout du fil tendu ? L'autre cap, c'est le cap de l'espoir. C'est-à-dire que le monde aussi est beau, il y a du possible, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se faire. Tu vas grandir, voilà, il y a des épreuves à passer, mais ça nous fait grandir. Donc comment, en tant que parent, on tient ce double cap de la lucidité et de l'espoir ? Voilà. Et si on tient ce double cap, voilà, encore une fois, j'ai envie de dire, tout va bien. Hein, l'enfant va faire son chemin, va faire cette traversée et va devenir un homme et une femme tout à fait bien dans ses... suffisamment bien dans ses baskets, en tout cas. Voilà, lucidité et espoir.
Merci.